écoutez Alger chaîne 3, le journal.
Abdou Saïh, bonsoir. Madame, monsieur, bonsoir. Au sommaire de cette édition, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu aujourd'hui et le premier ministre serbe et le président du Conseil national des régions des districts tunisiens, Ahmed Delbelli, en visite en Algérie. Le premier ministre serbe a été reçu aujourd'hui par son homologue algérien. Sefer Aliyev, des accords ont été signés et plusieurs secteurs économiques sont concernés. Le président du Conseil de la Nation, Azouz Nasri, a reçu le président du Conseil national des régions et districts tunisiens, Ahmed Derbelli. Nasri et Derbelli ont installé le groupe d'amitié parlementaire algéro-tunisien. Ahmed Attaf, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale établie à l'étranger en visite en Belgique. Il a été reçu dans la soirée par le premier ministre du Royaume de Belgique, Bart De Wever. Et les discussions ont porté sur les relations bilatérales. Le projet de loi encadrant les élections a adopté à l'unanimité dans la Chambre basse. Le texte établit de nouveaux critères pour les candidats et les partis politiques. Il détermine avec précision le rôle de l'administration et celui de l'ANI. Le salon équipe auto se poursuit jusqu'à demain mercredi à Alger et augmenter la part des composants made in Algérie dans l'industrie automobile est une priorité. Les opérateurs tissent des liens. Dans l'actualité internationale, l'entité sioniste poursuit son entreprise génocidaire en Palestine en toute impunité et la Knesset adopte une loi qui permet d'exécuter froidement plus de 10 000 prisonniers palestiniens dans les geôles de l'entité. L'Europe dénonce une loi sioniste discriminatoire et renforçant l'apartheid. Météo Algérie a émis des BMS annonçant de fortes pluies, chutes de neige et des vents forts concernant plusieurs régions du pays. Les détails dans cette édition. Et en sport, football, 0-0, Algérie-Uruguay en match amical en Italie. Madame, monsieur, bonsoir. Merci de nous retrouver et bienvenue dans cette édition. Tout d'abord, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu aujourd'hui le premier ministre de la République de Serbie, Đuro Makut, et la délégation qui l'accompagne. L'audience s'est déroulée en présence du directeur de cabinet de la présidence de la République, Boualem Boualem, de la ministre du Tourisme et de l'artisanat, Hariem Dahi, du conseiller auprès du président de la République chargé des affaires diplomatiques à Maraba, du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères de la communauté nationale, à l'étranger des affaires africaines, Ounes Magremen, et de l'ambassadeur d'Algérie auprès de la République de Serbie. Le Premier ministre serbe, au sortir de l'audience qui a accordé le Président de la République, a souligné qu'il s'agit d'un nouveau départ pour une amitié de longue date, appelée à se renforcer à travers de nouveaux axes de coopération. Il a précisé que son pays accorde une grande importance à une politique indépendante et neutre, et que l'Algérie partage cette vision fondée sur le respect de la souveraineté. Il s'est dit convaincu que ce partenariat permettra de consolider les relations bilatérales et d'ouvrir de nouvelles perspectives de coopération et à un niveau plus élevé. Et justement aussi, le premier ministre est également à Alger depuis hier. Il a co-présidé avec le premier ministre Sefer Aliyev la cérémonie de signature de plusieurs accords bilatéraux dans les secteurs des finances, de l'agriculture, de la poste et du tourisme. Les deux parties ont également signé un programme exécutif dans le secteur de la culture pour les deux années à venir. Les deux premiers ministres ont eu des entretiens élargis aux délégations des deux pays. Ils ont passé en revue les différents aspects de la coopération entre l'Algérie et la Serbie avant d'examiner les moyens de renforcer le partenariat économique et de booster les échanges commerciaux et les investissements bilatéraux. Cette opération avec l'Algérie ouvrira à la Serbie les portes de l'Afrique, assure le premier ministre à son homologue serbe. On écoute Sefer Aliyev, le premier ministre.
Je tiens à souligner l'importance d'encourager le dialogue entre les hommes d'affaires de nos deux pays. À travers vous, je m'adresse à la communauté économique de votre pays afin de profiter de cette dynamique positive qui caractérise nos relations et d'exploiter les opportunités de coopération et de partenariat possibles sur le marché algérien dans le but de contribuer à notre effort commun pour développer la coopération bilatérale et renforcer son contenu économique et d'investissement.
Cette opération avec l'Algérie ouvrira la Serbie et les portes, je le disais, de l'Afrique, assure le Premier ministre à son homologue serbe. De son côté, le Premier ministre serbe a réaffirmé la volonté de son pays de porter ses relations avec l'Algérie à des niveaux plus élevés.
J'exprime le souhait sincère de voir nos relations se développer et se renforcer. Il est essentiel de leur insuffler une nouvelle dynamique tant sur le plan politique que dans les échanges économiques avec des résultats concrets. J'espère que cette visite sera prochainement couronnée par des rencontres au plus haut niveau entre nos deux présidents. Notre partenariat futur devra s'appuyer sur des secteurs clés tels que l'agriculture, les engrais, le commerce et l'énergie qui a historiquement occupé une place centrale dans les relations entre l'Algérie et la Serbie.
Et je le disais en titre, le président de la République a reçu également aujourd'hui le président du Conseil tunisien des régions et districts, Ahmed Derbeli. Je vous propose de l'écouter, il s'est exprimé au micro de la Radio Nationale au sortir de l'audience que lui a accordé le président de la République.
J'ai eu l'honneur de rencontrer le président de la République algérienne, Abdelmadjid Tebboune. L'échange était riche. Je lui ai transmis les salutations du président de la République tunisienne, Kais Saied. Nous avons évoqué les liens et les relations privilégiées qui unissent l'Algérie à la Tunisie. Cette rencontre a été l'occasion de revenir sur les différentes étapes qui ont marqué les relations entre nos deux pays et d'évoquer les moyens de renforcer davantage leur dynamisme au service de nos deux États et de nos deux peuples frères.
Et après Zagreb, le chef de la diplomatie, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale étrangère et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, est à Bruxelles. Chargé par le président de la République, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, entame une visite officielle au Royaume de Belgique. Une visite qui vise à insuffler une nouvelle dynamique aux relations algéro-belges et établir un partenariat bilatéral plus que dense et plus efficient et plus efficace. Au cours de cette visite, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a été reçu aujourd'hui par le premier ministre du Royaume de Belgique, Bart De Wever, dans le cadre de sa visite officielle. Je vous propose de l'écouter.
Nous avons signé aujourd'hui deux nouveaux accords. Le premier portant suppression des visas pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de services, et le second visant à encadrer la coopération en matière de mobilité des personnes entre nos deux pays. Nos entretiens ont également permis d'identifier plusieurs axes d'action afin d'élever notre coopération à la hauteur de nos ambitions communes.
23h08 à l'écoute d'Alger Chin 3 et activité parlementaire. Le projet de loi qui encadre les élections qui a été soumis au vote a été adopté à l'unanimité au niveau de la chambre basse du Parlement. Le texte régit l'opération du début jusqu'à la fin. Il prévoit des changements dans l'organisation des scrutins. Les candidats doivent répondre à de nouveaux critères. Pour les partis politiques, aucun financement étranger ne sera toléré, nous dit Maëlle Kenz.
Le projet de loi relatif à la loi organique sur le régime électoral a été voté à l'unanimité à la PN. Ce texte vise à renforcer la transparence du processus électoral et à consolider la pratique démocratique. Saïd Sayoud, ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et des Transports.
Le vote d'aujourd'hui sur le projet de cette loi organique reflète la volonté de votre institution législative de s'inscrire dans la dynamique des réformes politiques initiées par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, visant à consacrer l'état de droit. Nous aspirons à travers cet amendement à renforcer la pratique démocratique fondée sur des bases constitutionnelles solides, selon des règles claires et transparentes, reposant sur le libre choix du peuple et ayant pour objectif de parachever la construction institutionnelle de la nouvelle Algérie, notamment les assemblées populaires élues, que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a qualifié à plusieurs reprises de pierre angulaire de cette construction, et sur la nécessité de les protéger de l'argent corrompu afin de garantir une représentation populaire authentique et intègre.
Ce projet de loi vient corriger certaines insuffisances relevées sur le terrain et introduit de nouvelles garanties pour renforcer la transparence et la crédibilité du déroulement des élections. Brahim Bourali, président de l'Assemblée populaire nationale.
Les pratiques de terrain ont révélé, malgré les acquis réalisés, un ensemble de dysfonctionnements ayant nécessité une évaluation et une révision, qu'il s'agisse de l'organisation du processus électoral, de la répartition des prérogatives entre les différents intervenants ou encore des procédures liées à la candidature et au contrôle. C'est dans cette optique que ce projet a été élaboré, afin de poser les bases d'une nouvelle étape fondée sur l'efficacité, la confiance et la transparence. Parmi les principales dispositions contenues dans ce projet figurent celles visant à renforcer la crédibilité du processus électoral, notamment à travers les renforcements des mécanismes de transparence à toutes ces étapes, depuis l'élaboration des textes électoraux, en passant par la campagne électorale jusqu'aux opérations de vote, de dépouillement et à l'annonce des résultats.
En attendant son passage à la Chambre haute, ce projet de loi prévoit de nouvelles dispositions pour assurer un processus électoral répondant aux attentes des électeurs et de la classe politique.
Et à l'ère de la transition énergétique, le gaz s'impose comme une énergie clé indispensable. Il s'associe à d'autres sources pour parvenir à des modèles énergétiques résilients et durables. Entreprises et experts se sont penchés sur la question durant les travaux du 8e symposium de l'Association algérienne de l'industrie du gaz qui s'est tenu à Oran. Notre envoyé spécial, Dali Boukhadoum, nous en dit un peu plus.
Le gaz et les énergies renouvelables, ces deux piliers apparaissent aujourd'hui comme profondément complémentaires. Le gaz naturel par sa flexibilité et sa capacité à répondre rapidement à la demande et les renouvelables s'imposent comme un investissement d'avenir. Leur rentabilité se confirme sur le long terme. Mohamed Daoudi, explorateur.
À long terme, la transition énergétique, elle sera économiquement rentable. Mais le gaz conventionnel reste le socle, reste la base de toute industrie énergétique. Dans le gaz fossile, on a ce qu'on appelle des dérivés, chose qu'on ne retrouve pas dans la transition énergétique. C'est pour ça que les deux doivent marcher ensemble.
Pour certains pays, atteindre une énergie 100% propre est inévitable, mais la réalité économique impose d'autres règles. Jacques Solayrak, directeur général de l'entreprise Clark Energy.
Ce qui est important, c'est qu'on puisse tendre demain vers un monde dans lequel l'énergie soit 100% renouvelable. Néanmoins, la réalité aujourd'hui économique nous amène à devoir plutôt penser des systèmes qui soient hybrides, des systèmes intelligents, qui puisse combiner de la production d'énergie renouvelable, photovoltaïque, éolien, hydraulique, combiné avec des systèmes de stockage d'énergie par batterie, combiné avec des systèmes pilotables, des moteurs à gaz, des moteurs diesel lorsqu'il le faut, et surtout avoir une intelligence derrière qui permette de piloter de manière efficace et flexible ces différents assets.
Cette complémentarité entre ces deux ressources énergétiques n'est plus une option, elle devient une nécessité pour les pays producteurs comme pour les économies en transition. Miser sur cette dualité, c'est investir dans une souveraineté énergétique durable.
Et l'actualité internationale est marquée par l'entité sioniste qui adopte une nouvelle loi qui défie le droit international. L'occupant étant habitué à ce genre de décision controversée à l'égard des Palestiniens, tous les prisonniers détenus dans les geôles seront exécutés froidement. Une loi largement approuvée par la Knesset, encore un crime dénonçant, plutôt que dénoncent les Palestiniens. Je vous propose d'écouter Raïla Amel, représentant des relations, plutôt chargé des relations internationales au club des détenus palestiniens. Il est contacté par Linda Hamid.
Son objectif, occulter et couvrir tous les crimes commis par l'entité sioniste contre les détenus palestiniens dans les geôles de l'occupation. Des crimes qui ont nettement augmenté depuis le 7 octobre 2023, depuis plus de 2 années. Cette loi, largement approuvée par la Knesset d'un gouvernement d'extrême droite sioniste, une autre loi purement criminelle qui s'ajoute à d'autres sur la liste de l'entité sioniste pour réprimer les Palestiniens. Nous tentons alors de sensibiliser l'opinion internationale, les hautes instances et notre représentation à l'ONU pour exercer une pression, avoir gain de cause et réussir à faire cesser ce genre de décision.
Et l'application de ce texte discriminatoire constituerait une violation supplémentaire et particulièrement grave du droit international. Son application aux habitants du territoire palestinien occupé constituerait un crime de guerre, a affirmé le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme Volker Türk dans un communiqué. Et une loi, ou plutôt une loi votée, qui a été aussi dénoncée par l'Europe est qualifié de loi discriminatoire et qui ancre davantage l'apartheid. L'entité sioniste compte occuper une partie du Liban après la fin du conflit au Moyen-Orient, une intention assumée. Le gouvernement libanais alerte sur une situation dramatique face au projet de zone tampon sioniste. Il appelle à la diplomatie pour éviter la catastrophe. Plus de précisions avec Lester Hennier.
En l'espace de quelques semaines, plus d'un million de personnes ont été déplacées à l'intérieur du Liban, tandis qu'environ 200 000 ont fui vers la Syrie voisine. Un cycle de déplacements forcés est en cours, alors que le ministre sioniste de la Défense a affirmé que son armée comptait s'installer dans une zone allant du sud du Liban jusqu'au fleuve Litani. Faiza Mokaddem, vice-présidente de l'Union internationale des avocats, appelle depuis Beyrouth à une mobilisation urgente pour protéger les civils.
Israël intensifie, hors la loi, ne respecte plus le droit international dans cette séquence. Les frappes ont dépassé le sud pour toucher la banlieue sud de Beyrouth et d'autres zones civiles et centaines et milliers de déplacés. Nous condamnons les frappes. La situation se dégrade à vue d'œil. Il faut une vraie pression diplomatique vite avant que tout explose, que les diplomaties freinent le train avant le déraillement total.
Entre escalade militaire, crise humanitaire et incertitude sécuritaire, l'ONU appelle à une réaction internationale rapide au Liban pour éviter le scénario d'un territoire durablement occupé et d'une population prise au piège.
Et de retour chez nous, des pluies orageuses, des chutes de grêle et des rafales de vent continueront d'affecter plusieurs villages du pays. Jusqu'à demain mercredi, selon Météo Algérie qui a émis de nouveaux BMS, les villages du centre, de l'est et du sud sont concernés avec des quantités de pluie pouvant atteindre les 50 mm. La protection civile intervient pour venir en aide aux citoyens et rappelle les consignes de sécurité. On écoute à ce propos lieutenant-colonel Nassim Bernawi, sous-directeur de l'information et des statistiques et de la communication à la Direction générale de la protection civile, contacté par Linda Hamed.
Les opérations d'épuisement des eaux pluviales, notamment effectuées au niveau de la wilaya de Béchar, à la commune de Béchar, à la cité Manouka, ainsi Fatim Mimoun, devant la gare routière. Quelques opérations au niveau de la wilaya de Skigda, Hamadi Kourouma, commune de Skigda, suite à des chutes d'arbres à proximité de quelques habitations sans causer des personnes blessées. Même chose au niveau de la wilaya de Mila, à la commune de Gerem Gouga, chute d'un arbre qui a provoqué l'effondrement partiel d'un mur extérieur, ainsi que la chute d'un poteau électrique. Ainsi, des routes qui restent difficile à circulation, notamment reliant Bouira et Tizi Ouzoul, à 33, 35, surtout au niveau des cols de Tizi Nkounen, ainsi que de Tirouda et Charlata, reste coupé à la circulation. La protection civile appelle aussi l'ensemble des citoyens à doubler vigilance et être prudents, notamment avec la baisse des températures. Il faut que les citoyens pensent toujours à ventiler et aérer leur domicile afin d'éviter d'être victimes du monoxyde de carbone, où durant les dernières 48 heures, on déplore le décès de 3 personnes intoxiquées par le monoxyde de carbone.
Et les neiges bloquent plusieurs axes routiers. C'est le cas à Bura où des opérations de déneigement sont en cours. Correspondance de Harris Chachoua.
Ces derniers jours, la wilaya de Bura a enregistré d'importantes chutes de neige et des pluies continues, provoquant l'enneigement de plusieurs routes nationales reliant la wilaya de Bura à la wilaya de Tizi Ouzou, notamment l'R1 06, l'R1 15 et l'R1 30 via respectivement Tizi Djaboub, Arbalou et Saharij, où les effectifs des travaux publics, les éléments de l'AMP et d'autres services concernés poursuivent les opérations de déneigement. L'R1 33 menant vers Tizi Ouzou a été déneigé jusqu'à la station climatique de Tijda. De même, l'opération du déneigement se fait au niveau de l'R1 62 reliant la wilaya de Bouira à la wilaya de Média via le col de Deshmia. Par ailleurs, les services de la protection civile appellent à la vigilance après être intervenus pour dégager ces véhicules bloqués par la neige avec 15 personnes à bord, tout en signalant plusieurs cas de dérapage et de collision sur différents axes routiers. En attendant une amélioration des conditions météorologiques, la prudence demeure le meilleur allié des usagers de la route. Bouira, Harris Chachoua, Al-Jishan 3.
Et plus de 37 personnes sont décédées et plus de 1800 été blessées dans des accidents de la circulation en une semaine. Le dernier en date, celui d'hier soir sur la rocade nord-sud reliant Alger à Chifa Médéa, très exactement, à la sortie du deuxième tunnel dans la commune de Chifa, qui a coûté la vie à 4 adolescents âgés entre 13 et 16 ans. Et à 23h20, nous arrivons à l'actualité sport avec Abdallah Benmouni. Abdallah, bonsoir.
Bonsoir, Mounir.
Et on commence avec le football. L'équipe nationale, les Verts, font match nul face aux Uruguayens.
L'équipe nationale de football s'est neutralisée avec son homologue uruguayenne 0 partout en match amical disputé ce soir à l'Allianz Stadium de Turin, dans le cadre des préparatifs pour la Coupe du Monde 2026. Il s'agit du second test amical disputé lors du stage effectué en Italie, après celui largement remporté vendredi face au Guatemala 7-0 à Gênes. Lucas Zidane revient sur ce match.
On a fait un bon match, c'était un bon test avant la Coupe du Monde pour bien se préparer. C'était une bonne équipe de l'Uruguay, c'est avec des très bons joueurs et c'était un bon test pour nous. On va, de toute façon, nous on est des compétiteurs, on est des joueurs, donc on va essayer d'aller jusqu'au bout.
Avant le coup d'envoi du Mondial 2026 prévu aux États-Unis, au Canada et au Mexique, les Verts disputeront un match amical face aux Pays-Bas le 3 juin au stade de Rotterdam. Lors de la Coupe du Monde 2026, l'Algérie évoluera dans le groupe G en compagnie de l'Argentine, de l'Autriche qui ont battu la Corée du Sud ce soir 1-0 et de la Jordanie qui a fait match nul face au Nigeria de partout.
Football toujours, Abdallah, avec la Ligue 1, mise à jour de la 17e journée avec 3 rencontres.
Tous les regards seront braqués sur le stade Ali Ammar de Douira où l'incontestable leader, le Mouloudia d'Alger, tentera de creuser davantage l'écart en accueillant devant ses tribunes vides son éternel rival, l'USM Alger. Match à huis clos et quelques cadres de l'équipe qui seront absents, dont le capitaine Abdellaoui Ibn Khamassa, suspendu, et du Zograna retenu avec la sélection du Burkina Faso. La tâche du Mouloudia semble difficile face à un adversaire qui se trouve au milieu du tableau. Le Chebab Riadi de Belouizdad aura une tâche plus aisée en se déplaçant chez un mal classé, à savoir le Parado Athletic Club, qui joue son avenir dans cette confrontation. Et la troisième rencontre en retard programmée au stade Aït Ahmed de Tizi Ouzou verra la JS Kabylie recevoir la dynamique équipe de l'étoile sportive de Ben Aknoun dans un match indécis et qui se jouera à 16h. Et une prestation, après la prestation solide de notre équipe nationale algérienne qui confirme ses ambitions, dans le même temps la soirée a été animée en Europe avec les barrages qualificatifs et plusieurs résultats marquants. Grosse surprise avec l'élimination de l'Italie, accrochée un partout par la Bosnie avant de s'incliner au tir au but 4-1. La Turquie qui s'est imposée dans la douleur face au Kosovo 1-0. La Suède a offert un match spectaculaire en dominant la Pologne 3-2. Et enfin la Tchéquie qui s'est qualifiée au bout du suspense face au Danemark après un match nul de partout avant de l'emporter 5-4.
Et on termine avec l'handisport, Abdallah, et basketball en fauteuil roulant, nos représentants en demi-finale.
L'équipe nationale féminine s'est qualifiée en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations en se classant première avec un sans faute. Et l'équipe masculine a fait de même après avoir battu le Liberia 106-10.